Bonjour à tous. On a passé une excellente fin de semaine avec vous ici dans cette Expo Bible. Nous remercions le Seigneur pour la possibilité de venir nous déplacer comme nous le faisons. Un jour, je suppose qu'on sera trop vieux, mais jusqu'à présent, on arrive à tenir le volant et la voiture nous porte. Donc, on peut voyager et être les uns avec les autres dans ce ministère itinérant. Et on est reconnaissant de pouvoir le faire encore. On est très attaché aux Expo Bible puisque c'est une occasion unique de faire connaître la Bible comme un document historique, un document digne de confiance. Mais ce matin, ce n'est pas uniquement un document digne de confiance et historique, c'est un document qui nous dit comment vivre. Et c'est bien ça sa valeur principale pour nous. La Bible, c'est notre carte routière. La Bible dit comment commencer la vie, comment nous avons commencé la vie, et la Bible dit surtout comment il faut la terminer. Et le message ce matin s'intitule « La fin ». La fin. Pensez-vous à la fin. Vous dites « Oh là là, ce n'est pas le moment. Je n'ai que 98 ans, ce n'est pas encore la fin, j'ai encore quelques années à vivre. » Si vous avez 20 ans, vous dites « Oh, la fin, c'est très 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 loin. Qu'en savons-nous ? » Aucun de nous n'est à l'abri de la mort, même aujourd'hui. L'âge n'y fait rien. Les gens meurent à tout âge. Et la Bible passe beaucoup d'importance sur la fin. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et donc, nous devons, nous aussi, de temps à autre, pas tous les jours, mais de temps à autre, réfléchir à la fin. Notre texte sera, et nous viendrons dans un instant, ce verset qui était là en Pierre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Si Pierre a dit ces paroles il y a 2000 ans, elles sont encore plus vraies aujourd'hui qu'alors, puisque la fin est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'au premier siècle de l'ère chrétienne. Mais ce matin, nous allons considérer avant de regarder 1 Pierre, ça sera le texte de la fin du message de la fin, mais avant on va regarder Ecclésiaste. Comme vous le savez, Ecclésiaste est un livre un peu particulier, c'est les proverbes, les découvertes de l'homme le plus sage qui a jamais vécu. Dieu lui a donné une sagesse immense, même s'il s'est éloigné de Dieu, malheureusement, Salomon n'a pas maintenu une marche obéissante qui plaît à Dieu. Il s'est laissé prendre au piège par différentes tentations. Il a quand même conservé la sagesse que Dieu lui a donnée. Et vers la fin de sa vie, semble-t-il, il a écrit ce livre de l'Ecclésiaste où il donne un peu la sève, si vous voulez, de son expérience, de la sagesse en réfléchissant à la vie. Et que dit-il ? Eh bien, en Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, nous lisons ces paroles. « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. » Nous lisons dans le verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Vous trouvez ça peut-être un peu lugubre. Il vaut mieux une maison de deuil qu'une maison de festin. Vous dites, « Ah ben non, moi je préfère la maison de festin. Je préfère les mariages aux enterrements. » Alors comment se fait-il? Il y en a qui, je pense, sont mariés, donc ils disent « Amen ». Quelques considérations générales sur la fin. Premièrement, et je ne vous apprendrai rien en vous disant « Notre vie finira par la mort ». Je sais que c'est pas de bon goût d'en parler, mais c'est vrai, notre vie finira par la mort. Et donc, dans le verset 1, ça prend en relief « Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. » Quand on est jeune, on ne pense pas cela. Mais quand on devient âgé, on dit, mais finalement, quand je mourrai, et bon, beaucoup de personnes âgées disent, je ne crains pas la mort, je crains les souffrances qui pourraient la précéder. Mais en réfléchissant bien, le jour de la mort, c'est le jour de la fin de toutes nos souffrances. C'est le jour de la fin de toutes nos frustrations. Pour beaucoup, c'est le jour où l'on va rencontrer des bien-aimés auxquels on était très attachés, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Le jour de la mort, c'est le jour même où on va rencontrer Jésus dans sa gloire. On va être avec lui. Et l'apôtre Paul ne s'est pas trompé en disant, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de loin est le meilleur. Donc pour nous qui connaissons Jésus-Christ, le jour de la mort est bien meilleur que le jour de notre naissance. Quand on n'est pas conscient de ce qu'on va vivre. On change d'univers. On n'est plus dans le liquide amniotique, on est dans l'air libre. On tape sur nos fesses pour crier, pour prendre ce premier bol d'air et on commence à vivre. On découvre le vaste monde, c'est magnifique. Et peu de temps après, on commence à découvrir les diverses souffrances humaines. Et parfois, ces souffrances deviennent terribles et durables. Et on aspire à mettre fin à cette vie sur terre. Mais réfléchir comment on va vivre et terminer sa vie vaut mieux que de faire la fête. Car quand on fait la fête, il faut dire qu'on ne pense à rien. On ne pense qu'à s'amuser, et c'est très agréable, mais on ne pense pas sérieusement à la suite de sa vie. Et puis il dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Pourquoi ? Parce qu'un parfum, même les meilleurs parfums, durent peu de temps. La preuve, c'est qu'il faut en remettre constamment. Si le parfum durait un an, ils en vendraient beaucoup moins. Mais l'odeur dure un jour, parfois même pas, parfois deux jours, parfois trois jours, si c'est un parfum très cher. Mais le parfum a ceci, c'est temporaire. Tandis qu'une bonne réputation, c'est quelque chose, si on l'entretient, c'est quelque chose de permanent. N'importe qui peut mettre un bon parfum. On peut même mettre un très bon parfum très fort et négliger l'hygiène. Personne ne se rend compte pendant quelques temps. Mais une bonne réputation, eh bien, nous précède, c'est comme un bon parfum, mais qui ne part pas. Et donc, l'Ecclésiaste donne ses considérations générales par rapport à la fin. Il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. De prime abord, on dit, oui, je ne sais pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ou je ne sais pas. Mais seules les choses qui sont terminées ont de la valeur. Par exemple, une maison. Commencer à bâtir une maison, c'est un moment grisant, c'est formidable. Mais quand la maison est terminée, on peut y habiter. Tant qu'elle n'est pas terminée, elle n'a aucune valeur. Une voiture, c'est la même chose. Hein. On commence à monter une voiture sur une chaîne de montage, c'est formidable. Mais la voiture ne vaut rien du tout jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Un jardin, c'est la même chose. Commencer à cultiver et tourner la terre, c'est bien, mais ça ne vaut rien ce jardin jusqu'à ce que tout soit planté et bien entretenu et surtout récolté. C'est à la récolte que le jardin prend tout son sens. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose marque la réussite de cette chose. On a réussi, on a terminé ce que l'on a commencé. Comme une fois on dit aux jeunes, tu suis des études. Eh bien, je te conseille de terminer ce que tu as commencé. Faire une année de ceci, une année de cela, une année d'autre chose. Tu commences tout, tu ne termines rien. Tu n'as pas de diplôme. C'est ce que les parents disent à leurs enfants souvent. Encore qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, il vaut mieux terminer ce que l'on a commencé. Notre vie ne sera vraiment utile, notre vie ne sera vraiment en parfum que si elle se termine bien. Dans le sport, c'est connu. Tout le monde peut partir sur un marathon. Mais seuls ceux qui franchissent la ligne d'arrivée peuvent se qualifier de marathonien. Même si on n'est pas le premier, on a quand même couru toute la distance. Mais si on dit, j'ai commencé, mais j'ai abandonné au bout de 3 ou 4 kilomètres, on est l'objet du mépris. Mais pourquoi tu t'es inscrit si ce n'était pas pour finir? Et ainsi de suite dans bien des domaines de notre vie. La fin d'une chose. Maintenant, on va penser un peu à ce qu'enseigne la Bible par rapport à la fin. Parce que Dieu est très clair, il a mis la fin. Il met la fin à tout. C'est Dieu qui siffle la fin de la partie, comme on dit. C'est lui qui gère les choses, et quand les choses se terminent, c'est lui qui dit, c'est terminé. Regardez par exemple en Genèse chapitre 6. Genèse 6, versets 5 et 7. C'est avant le déluge. Il y a toute une civilisation humaine prospère. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes vivent sur la terre. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Même aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a des gens qui se lèvent le matin avec de bonnes intentions. Et à cette période de l'histoire, c'était une période tellement sombre qu'à part Noé et sa famille, quand les gens se levaient le matin, ils ne pensaient qu'à faire le mal. C'était quelque chose de terrifiant. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Si on avait pu, en tant qu'homme, à cette époque-là, en tant qu'un de ces hommes méchants, si on avait pu pénétrer dans les cieux et écouter Dieu parler, prendre conseil avec lui-même, et se dire à lui-même, l'humanité s'est totalement détournée du but que je lui avais fixé, c'est terminé. Je vais détruire tous les hommes. Et que vous en faisiez partie, ça ferait froid dans le dos. Dieu va me détruire et tous mes contemporains. Toute l'humanité va périr parce que Dieu l'a décidé. Dieu a décidé de mettre fin à la civilisation avant le déluge. Regardons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 3. Jésus est avec ses disciples, c'est vers la fin de son ministère, ils sont à côté du temple. Et les disciples font remarquer à Jésus, je ne sais pas s'ils se prenaient pour les guides touristiques ou quoi, ils voulaient faire admirer par Jésus les constructions du temple. Regarde ce que Hérode a fait, une rénovation réussie, regardez, ces pierres sont remises en valeur, regarde la dorure, etc. Et je pense que tu dois admirer ce magnifique temple. Et le Seigneur dit, verset 2, vous savez, il ne restera pas deux pierres ensemble de cet édifice. Alors ça choque les disciples. Et dans le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, c'était à quelques 500 mètres, 1 kilomètre du temple. On pouvait voir le temple de là où il était assis. Donc, il pouvait contempler un peu la ville de Jérusalem, du mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, les disciples ne se sont pas trompés. Jésus-Christ, leur maître, qui est avec eux sur le mont des Oliviers, va un jour mettre fin à ce monde. Ils y vivaient, ils y étaient plutôt bien, mais ils sont convaincus que Jésus va mettre fin à ce monde actuel. Et nous lisons dans le verset 14, « Cette bonne nouvelle, dit Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Voilà, Jésus annonce la couleur. Il dit, la bonne nouvelle de mon salut sera prêchée à tous les peuples de la terre. Tous les peuples pourront en prendre connaissance. Après cela, viendra la fin du monde. Je mettrai fin à ce monde tel que vous le connaissez. Donc, Jésus va mettre fin à notre âge actuel et il viendra pour juger le monde et pour régner sur ce monde. Il a clairement annoncé. Regardons maintenant à l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Dans les versets 1 à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. À travers cet ange, Dieu va mettre fin à l'activité de Satan sur la planète Terre. C'est une bonne nouvelle. Satan, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. La Bible dit qu'avant de connaître Christ, nous étions morts dans nos péchés et nous vivions selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Quelqu'un l'a dit avec un bien joli mot, il a dit, en fait, Satan est le chef d'orchestre et toute l'humanité danse la musique de cet orchestre. Les gens, sans se rendre compte, ils sont dans la famille du diable, dans la mesure qu'ils ne sont pas dans la famille de Dieu. Et donc, Satan est actif sur la planète Terre. Le spiritisme se porte bien sur la planète Terre. Des diseurs de bonne aventure, tout ce qui est occulte, ça se porte bien. C'est en pleine progression. Les fausses religions, les religions de toutes sortes, les plaisirs du monde, ce sont d'autant d'appât qu'à Satan. Satan, c'est un peu comme quelqu'un qui a ouvert un grand magasin. Il dit, peu importe mon centre d'intérêt, j'ai quelque chose ici pour vous plaire. Ou c'est comme quelqu'un qui a plusieurs appâts sur plusieurs hameçons et il pêche. Alors, pour tel poisson, j'emploie cet appât. Pour tel autre, j'apprends cet appât. Il a quelque chose pour tout le monde. Des gens qui sont religieux et remplis d'orgueil spirituel, il a un appât pour eux. Des gens qui sont dévoyés dans la déchéance morale, il a quelque chose pour eux. Ça ne le gêne pas. Des cultes, des églises, etc. Pourvu que Jésus-Christ ne soit pas au centre de son évangile. Donc, il déploie une activité intense sur la planète aujourd'hui. Et nous sommes appelés à lutter contre son influence, à nous armer de toute l'armure de Dieu, pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce qu'il est extrêmement rusé. Non seulement il déploie une activité sur la terre, mais il déploie une activité au ciel, car la Bible dit, il se tient devant Dieu, il est accusateur des frères nuit et jour. Il nous accuse devant Dieu, et il accuse Dieu auprès de nous. Il est dans l'accusation, il est dans la calomnie, et il ne se lasse pas de ces activités-là. Mais un jour, et nous venons de le dire, un grand ange va descendre, un ange qui va recevoir une puissance énorme, parce qu'il, lui, tout seul, va prendre le diable, lui, avec une chaîne, ouvrir un trou et le jeter dedans et fermer et sceller l'ouverture, et Satan ne pourra pas sortir. Et pendant 1000 ans, pendant que Jésus régnera sur la terre, Satan sera incapable d'exercer la moindre influence sur l'humanité. Et Jésus va le faire. Il va le faire quand le moment sera venu. Et ça ne lui posera aucun problème. Il ne va même pas transpirer dans sa lutte pour réduire Satan. Satan est entièrement entre son pouvoir et il peut faire de Satan ce qu'il veut. Il peut l'enfermer pendant 1000 ans, il le fera. Il mettra fin à son activité. Et puis, après la fin des 1000 ans, verset 8, Satan sera relâché de sa prison. Vous voyez, ce n'est pas Satan qui s'échappe. C'est Dieu qui ouvre le trou et il dit, tu peux sortir. Et Satan va sortir. Pourquoi va-t-il sortir? Eh bien, parce que pendant 1000 ans, il n'a pas eu l'opportunité de tenter les habitants de la terre. Jésus a régné sur la terre pendant 1000 ans avec une verge de fer, imposant son autorité. Beaucoup de gens sur la terre en viendront à adorer et à recevoir Jésus-Christ comme le roi majestueux qu'il est. Mais il y aura un certain nombre de personnes qui, tout au fond de leur cœur, nourrissent une rébellion à l'égard du roi Jésus, mais qui n'ont pas la possibilité de le manifester ou qui ne veulent pas le montrer parce qu'ils craignent le châtiment du roi. Alors ils vont garder cette rancœur, cette amertume pour eux-mêmes. Et puis quand Satan sortira, que va-t-il se passer? Il dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pour les raisons qui nous échappent, Dieu, donnant à l'homme un libre arbitre, il a permis à Satan, au diable, d'être présent là où habitent les êtres humains. Il est présent sur la terre aujourd'hui. Il a toujours été présent sur la terre depuis Adam et Ève. Pendant 1000 ans, il sera enfermé dans une prison. Il ne pourra pas exercer son influence. Mais tous ces gens qui auront vécu pendant cette période-là n'auront jamais connu l'influence ou les tentations diaboliques. Ils ne l'auront pas connu. Alors, pour leur permettre de se déterminer vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son appel de pardon et de salut, Dieu permettra à Satan de sortir. Alors, le fait que Satan vienne ne les oblige pas à pécher, attention. Mais la séduction de Satan va éveiller cette rébellion qui est déjà au fond de leur cœur. Et quand la séduction viendra, ces gens-là qui ont déjà le refus de Dieu dans leur cœur, ce refus va s'éclater au grand jour et ils vont se joindre à cette armée conduite par Satan pour aller détruire, s'il était possible, le peuple de Dieu. Cette armée va se former et va venir pour envahir Jérusalem, la cité de Dieu, et détruire, si c'était possible, le peuple de Dieu et Jésus-Christ lui-même. C'est bien la tactique de Lucifer. Et donc, quand l'humanité, à la fin du millénium, quand l'humanité sera clairement démarquée, d'un côté, les gens qui ont pris fait et cause pour Jésus, et d'autres, maintenant, qui se manifestent leur loyauté, ils manifestent leur loyauté envers Satan, quand les deux camps sont bien distincts, Dieu mettra fin à ces gens-là, aux rebelles, et les détruira, dit la parole. Un feu va descendre pour les dévorer, et à ce moment-là, comme c'est la fin, on va dire, de l'expérience humaine telle que nous le connaissons, Satan sera relégué pour l'éternité dans les temps de feu et de soufre d'où il ne sortira plus jamais. Et quelque temps après, il y aura le grand trône blanc où tous les incrédules paraîtront devant Dieu et seront consignés dans ce feu, cet étang de feu et de soufre qui a été créé pour Satan et pour les anges. Ça n'a pas été créé pour les hommes, mais les hommes, par le refus de Dieu, s'y retrouvent aussi. Donc, Dieu va mettre fin à l'activité de Satan pendant toute la période du millénium. Il va le relâcher et puis mettre fin définitivement à toute activité de Satan parmi les êtres humains une fois que cette deuxième guerre de Gog et Magog aura lieu. Ce qui est puissant dans tout ce thème, c'est que Dieu, il intervient et met fin. Il met fin. Il laisse courir, mais un jour, il met fin à ce qui se passe. Regardons en Corinthiens chapitre 3. En Corinthiens chapitre 3. Ceci nous concerne plus particulièrement à nous, les croyants. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, ceci vous concerne directement. Vous n'irez jamais, Dieu merci, gloire à Dieu, vous ne serez pas présent au jugement du grand trône blanc. Si vous êtes un enfant de Dieu, le jugement des incrédules ne vous concerne pas. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, cette évaluation vous concerne, on l'appelle le tribunal du Christ. Nous lisons dans le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 3, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Ce fondement, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous et moi, nous sommes actifs pour le Seigneur, nous parlons de Jésus, nous prions, nous lisons notre Bible, nous témoignons, nous avons certaines attitudes, nous essayons de nous entendre dans l'Église, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais voilà, nous sommes impliqués dans la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne, on a commencé à la vivre à notre conversion, et cette vie chrétienne, on va la terminer à notre mort, bien entendu. Mais après notre mort, quand on va dans la présence de Dieu, le Seigneur va évaluer la manière dont nous avons vécu la vie chrétienne. Ce n'est pas une évaluation pour savoir si nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Il n'y a que les croyants, il n'y a que les enfants de Dieu qui participent à ce tribunal du Christ. Mais le Seigneur va évaluer la qualité de notre œuvre pour lui. Il va évaluer ce que nous avons fait, il va évaluer l'attitude avec laquelle nous l'avons fait, il va évaluer les motivations qui nous ont poussés à faire ce que nous avons fait. Et si vous êtes comme moi, il y a des moments dont vous vous souvenez, où vous dites, j'ai fait quelque chose de bien, mais ma motivation n'était pas les plus pures. J'ai fait des choses pour Dieu, mais avec une attitude qui n'était pas à sa gloire. Et j'en suis conscient. Eh bien, le feu de Dieu, en fait, chacun de nous aura, c'est un peu comme si on était dans un lotissement, d'accord? Et vous êtes devant le portail, et derrière vous, il y a la maison que vous avez construite. C'est-à-dire, Dieu a transformé vos actes en matériaux de construction. Et vous avez construit une petite maison, ou peut-être une très grande maison. Peut-être vous l'avez construite avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Alors, elle n'est peut-être pas très grande, la maison, mais les matériaux de construction sont nobles. Autrement dit, peut-être vous dites, je n'ai pas fait beaucoup de choses pour le Seigneur, je n'ai pas fait autant que j'aurais voulu faire. Mais vous avez fait avec fidélité ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous l'avez fait avec une bonne attitude. Vous l'avez fait avec une bonne motivation. Vous l'avez fait avec humilité, avec constance. Vous l'avez fait avec amour pour les frères et sœurs. Vous l'avez fait pour la gloire de Dieu. Vous l'avez fait dans l'humilité. Le Seigneur amène son feu divin et le met au coin de votre édifice. Rien ne brûle. Rien ne brûle. Votre maison est intacte. Ce que vous avez fait pour Dieu est resté intact. Et Dieu vous donne une récompense à cause de cette œuvre. Mais peut-être vous avez une grande maison en bois, avec un toit en chaume. Et puis ça a l'air vraiment bien. C'est beaucoup plus grand que la maison d'à côté. Mais quand même, je trouve que le volume est intéressant et vous êtes fièrement devant. Bon, bien sûr, on est déjà au ciel, donc déjà on a peut-être une petite idée, mais en tous les cas, le feu de Dieu vient. Et vous en avez fait pour le Seigneur, vous avez été héroïque, même des gens vous ont admiré, tant que vous avez déployé de zèle, mais au fond de votre cœur, vous savez que vous le faisiez pour que les gens vous fassent des compliments, pour que les gens vous louent. Pour entendre derrière vous des gens qui disent, oh, c'est des gens incroyables, regardez, c'est vraiment des... Et votre cœur s'est enflé d'orgueil et de, waouh, je crois que là, je les ai vraiment impressionnés, là, je crois qu'ils sont scotchés. Et dans votre cœur, il y avait ce désir d'être reconnu, puis Dieu l'a vu. Et le Seigneur dit, mon pauvre, là, aujourd'hui, tu as construit avec du chaume, du bois. Ah oui, c'est impressionnant, c'est même imposant, mais ce n'est pas avec du bon un bon matériau. Et le feu de Dieu vient et brûle. Il ne reste que des cendres. Vraisemblablement, il y aura un peu des deux. Un peu de chaume, un peu de bois, peut-être un peu d'or et d'argent et de pierres précieuses. Sans doute, il y aura un peu des deux, parce que rares sont des chrétiens qui n'ont rien fait avec une bonne attitude, et rares sont des chrétiens qui ont toujours fait des choses comme il fallait. Hein. Mais tout ce qu'on a fait qui ne résiste pas à l'évaluation de Jésus-Christ sera détruit. Et on se dit, oh, c'est cruel quand même que le Seigneur détruit ce que j'ai soigneusement construit. Oui, mais c'est bien. C'est bien qu'ils le détruisent, parce que ces mauvaises œuvres ne reviendront jamais vous hanter pour l'éternité. Une fois que c'est détruit, c'est oublié, c'est sous le sang du Christ, on va pleurer, il va essuyer les larmes de nos yeux, on va être vraiment mal, mais il va nous consoler, il va dire, tes mauvaises œuvres, je les ai brûlées, elles ne reviendront jamais témoigner contre toi pour l'éternité. Il ne restera que ce que tu as fait de bien. Et donc, c'est une certaine grâce que Dieu nous fait que d'évaluer et d'éliminer tout ce qui n'a pas été à sa gloire. Alors, pour vous et pour moi, Jésus-Christ va mettre fin à votre vie chrétienne le jour de votre mort. Et puis, quelques temps après, nous allons passer en évaluation et notre Seigneur, sans parti pris, sans méchanceté, avec amour, mais avec honnêteté, va évaluer la somme de ce que nous avons fait et dit pendant notre vie chrétienne. Et seul restera ce qui a été à sa gloire. Ni vous, ni moi ne pouvons échapper au tribunal du Christ. Nous y passerons. Et tant mieux. Tant mieux! Parce qu'on a désespérément besoin de cette évaluation avant de passer à la stade suivante, notre vie éternelle, notre temps éternel avec Jésus-Christ dans sa gloire. Il mettra fin à l'activité de Satan, il mettra fin à notre activité par une évaluation, il mettra fin à ce cosmos, à cet univers. 2 Pierre chapitre 3 nous le dit très clairement. L'univers tel que nous le connaissons disparaîtra. Ça nous paraît difficile à croire. Mais si nous croyons que Dieu a créé le cosmos, il n'est pas difficile de croire que Dieu peut le détruire et en refaire un autre. Dans le verset 9 de 2 Pierre chapitre 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, c'est très clair. C'est très clair en français, en grec, en anglais, dans toutes les langues du monde. Les éléments qui composent cette terre vont être fondus. Ce n'est pas si difficile à croire. Savez-vous que la croûte terrestre sur laquelle nous sommes bien, hein? On est bien sur cette croûte terrestre. Savez-vous que l'épaisseur de la croûte terrestre par rapport à la planète Terre est moins épaisse que la peau d'une pomme comparée à la pomme entière? Pourtant, la peau d'une pomme n'est pas bien épaisse. Hein? Mais la croûte de la Terre est encore moins épaisse que la peau d'une pomme, toute proportion gardée. Ce n'est donc pas difficile à comprendre que Dieu puisse monter tout à coup la température de la planète et tout faire fondre. Faire tomber la croûte dans le magma est terminé. Il va faire fondre les éléments de cette terre, mais il va ensuite faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il va mettre fin à votre vie et à la mienne. Regardons en psaume 139. Psaume 139, que vous connaissez, parce que quand on va dans les maternités, quand les pasteurs vont dans les maternités pour admirer les nouveau-nés, les membres de leurs églises, moi j'ai été souvent, on ouvre à psaume 139 pour dire « J'étais tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Mais le verset 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Ça aussi, ça fait froid dans le dos quand on y pense. Avant ma naissance, à ma conception, Dieu avait déjà fixé le nombre de jours que je vivrais. Si vous êtes bon matheux, vous pouvez calculer le nombre de jours que vous avez déjà vécu. Ajoutez-y 2 mois, ou 9 mois, je veux dire. Hein? Ça fait le total de jours que vous avez vécu sur la terre. Et nous ne savons pas quelle est la dernière page de l'agenda que Dieu a ouvert pour vous à votre conception. Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'un jour, la dernière page sera tournée. Et ce sera le moment de partir. Dieu va mettre fin à notre vie. Regardez ce qu'il dit en psaume 90. Il dit, verset 1, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. » Est-ce que vous sentez une espèce de révolte monter dans votre cœur à la lecture de ce verset? Que Dieu dise à votre voisin, fils de l'homme, retourne dans la poussière. C'est mon voisin, ça ne me touche pas trop. Et quand il passe devant votre maison et toque à votre porte, il dit, mon enfant, retourne maintenant dans la poussière d'où tu es sorti. Il est temps pour toi de mourir. Je mets fin à ta vie. Mais réfléchir. Est-ce qu'on peut en vouloir à Dieu? Pourquoi lui en voudrions-nous? Il a l'autorité, il sait ce qu'il faut. Et nous pouvons dès à présent décider quand mon jour viendra et quand je mourrai, je n'ai personne à blâmer, ça ne sera pas la faute du médecin, ça ne sera pas la faute de l'infirmière, ça ne sera pas la faute d'un accident. Le jour où je partirai, c'est parce que Dieu a décidé de me dire de rentrer dans la poussière. C'est mon Dieu, c'est mon Père, c'est mon Sauveur, c'est lui qui m'a donné la vie. C'est pas moi qui me suis fait naître, c'est lui qui m'a donné la vie. Il a parfaitement le droit de mettre fin à ma vie terrestre. C'est son droit et je l'accepte. Joyeusement. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Oh mes amis, il mettra fin à notre vie un jour. Alors, puisque notre vie va prendre fin et qu'on n'y peut rien pour le changer, pensons à ceci, c'est que nous pouvons aujourd'hui influer sur notre fin. Pas forcément prolonger nos jours, encore qu'on peut parfois, si on a une bonne hygiène de vie, on peut peut-être vivre plus longtemps que si on se détruit systématiquement. Mais je parle moralement, nous pouvons aujourd'hui prendre des décisions qui feront en sorte que notre vie se termine mieux. Pensons, et on ne va pas regarder beaucoup de passages, mais pensons à Samuel et Saül, plutôt Samson. Samson et Saül, vous souvenez-vous de ces hommes-là? Ils ont bien commencé. On est dans l'admiration devant ces exploits que fait Samson, consacré à l'Éternel dès avant sa naissance, annoncé par l'ange à sa maman, et puis grandissant, et puis il pouvait soulever le portail d'une ville et l'amener le mettre tête sur une colline. Il pouvait tuer des dizaines d'hommes avec la mâchoire d'un âne, enfin des choses invraisemblables. Mais à mesure qu'on lit, on devient de plus en plus triste et on dit quel gâchis, cet homme avec cette force. Autant il avait de force musculaire, autant il avait de faiblesse morale. Et cette faiblesse morale a fini par le perdre. Et on a l'impression d'un immense gâchis. on se dit, en fermant l'histoire de Samson, qu'est-ce que cet homme aurait pu être s'il avait obéi à Dieu? Et c'est la même chose quand on lit les débuts du roi Saül. Un bel homme, tête et épaule au-dessus de tous les autres hommes. Une vraie tête de roi. Il avait le profil. Et puis Dieu lui a donné un cœur de roi. Et puis il aurait pu être un grand roi. Oui, mais la jalousie et l'amertume l'ont saisi. La désobéissance, l'orgueil, vouloir sauver la face, l'a perdu. Et cet homme termine ignominieusement sur un champ de bataille, tué par les Philistins. Ce sont des hommes qui, à un moment donné de leur vie, ont pris des décisions qui ont gâché la fin de leur vie. Et on n'a pas du tout envie de finir comme Saül ou comme Samson. Vous avez le roi Manassé, en 2 Chroniques 33. Vous pouvez le lire après. Et Manassé, c'était un roi, mais franchement, quand vous lisez l'histoire, vous dites, celui-là, il est totalement irrécupérable. D'abord, il a eu le règne le plus long de tous les rois de Juda, 55 ans de règne. Et pendant 54 ans et demi, pratiquement toute la durée, c'était le pire des rois. On dirait qu'il a fait exprès pour mettre Dieu en colère. Il a réussi. Dieu était extrêmement en colère contre Manassé. Et tout à fait à la fin de sa vie, il a un revirement, il confesse son péché, il demande pardon à Dieu, il vient à Dieu, il vit pour Dieu pendant quelque temps, juste avant de mourir. Il a très mal vécu, mais il a bien fini. Mais tellement tardivement que c'est triste. Parce qu'on se dit aussi, si Manassé avait pu mettre ses 55 ans pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans son royaume? Le brigand sur la croix, il a mal vécu toute sa vie. Et à la dernière heure, il a compris qui était Jésus-Christ. Il est parti avec Christ au paradis, mais sa vie, combien elle aurait pu être plus fructueuse s'il avait pris de bons choix. Puis vous avez Job, puis vous avez Paul, qui tous les deux ont vécu pour Dieu, mais qui ont vécu de terribles épreuves, de terribles souffrances. Mais comment est-ce qu'ils ont fini? Ils ont bien fini. Heureusement qu'il y a Job chapitre 42. Parce que dans ce dernier chapitre, tout est changé. Il vit deux fois plus longtemps qu'il a vécu jusque-là. Il a deux fois plus de richesses qu'il en avait jusqu'alors. Il a autant d'enfants qu'il avait perdus. Il est consolé, entouré de ses amis, et pendant quatre générations, il est là. C'est une merveille. Et quand on lit tout le livre, on dit, mais quelle terrible épreuve. Oui, mais il finit bien. C'est la fin qui compte. Dans un marathon, c'est les quelques derniers mètres devant la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on va dire 50 mètres avant la ligne d'arrivée? Oh, je suis fatigué, je crois que je vais... Non! Fini! Termine! Franchis la ligne d'arrivée, tu es bientôt marathonien, continue! Termine ce que tu as commencé. Ah, mes amis, nous influons chaque jour sur la manière dont notre vie se termine. Pour la plupart, elle se termine comme elle a été vécue. Si on vit dans le péché, on a de grandes chances de finir dans le péché. Si on vit dans la sainteté, on a de grandes chances de finir dans la sainteté. Mais chaque jour, nous influons sur notre fin. Alors, maintenant, venons à 1 Pierre chapitre 4. Pour terminer, nous revenons à l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs lui-même est mort, martyrisé pour sa foi. D'ailleurs, le Seigneur lui avait dit, hein, je ne sais pas comment vous auriez pris une telle nouvelle, moi. Ça m'aurait fait réfléchir, peut-être trembler un peu. Il savait avant l'ascension de Jésus, il savait qu'il finirait martyrisé pour sa foi. Le Seigneur lui a dit, tu sais, un jour quand tu seras vieux, des gens viendront te cendre et te mèneront où tu ne voudras pas aller. Et il disait cela pour indiquer par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Si on vous disait ce matin, vous savez, vous allez finir sur un bûcher. Vous allez finir décapité pour la cause du Christ. Vous allez finir devant un peloton d'exécution. Votre mort sera violente. tous les jours depuis maintenant jusqu'à ce jour-là, on pensera à ça. Hein? Est-ce que ça va être aujourd'hui qu'on va me capturer? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Combien de temps me reste-t-il avant cette mort violente? Pierre a vécu avec cet avertissement sur lui. Et ça ne l'a pas empêché de servir Dieu héroïquement. Et quand il dit « la fin de toutes choses est proche », il pouvait penser à sa propre fin et penser à la fin de tous. Mais ce qu'il a dit vaut pour nous tous. Mes amis, dit-il aux chrétiens, la fin de toutes choses est proche. Comment devons-nous nous préparer pour la suite et la fin? Et la première chose, il dit, verset 7, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous savez, parfois on dit, oh non, moi j'ai envie de m'étourdir. J'ai envie de me détendre, je ne veux penser à rien, je veux simplement m'évader. Aujourd'hui, les jeunes s'évadent tellement qu'ils ne sont plus dans la réalité. Ils redescendent sur terre pour quelques heures pour faire les classes, mais une fois qu'on a sonné la fin de la journée scolaire, les écouteurs, les jeux vidéo, on est parti dans un autre monde, dans un monde virtuel, un monde de jeux, un monde de sensations, un monde de vues, un monde imaginaire. Il y a des jeunes qui n'en descendent pas. Pendant des semaines. C'est tout le contraire que le Seigneur nous appelle à faire. Il dit, soyez bien ancrés dans le présent. Soyez bien concentrés sur la manière dont vous vivez, dont vous marchez, dont vous dirigez votre vie. Sage et sobre. Ne vous laissez pas prendre, ne cherchez pas une évasion qui va durer pendant des jours et des semaines. On a besoin de détente, bien entendu. On a besoin de repos. Et ce qui veut dire, c'est gardez-vous quand même concentré sur la réalité quotidienne. Soyez bien présent dans votre tête. Où est-ce que j'en suis? Comment ça se passe dans mon cœur? Quelles sont les attitudes que j'ai dans mon âme? Qu'est-ce qui se passe en moi? Amertume? Colère? Jalousie? Ou alors amour, compassion. Il dit, on dirait aujourd'hui en langage courant, dégage. Faites attention. Il dit, surveillez ce qui se passe ici. Surveillez vos réactions. Surveillez vos attitudes. Parce que la fin est bientôt là. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Il dit, vous savez, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a une opposition à l'évangile. Il y a des gens qui sont sous la coupe de l'ennemi. Il y a des gens qui ont besoin d'être libérés. Si vous êtes toujours en évasion, quelque part dans un monde imaginaire, vous n'allez pas voir les enjeux autour de vous. Vous n'allez pas voir la détresse des âmes, de vos voisins, de vos connaissances. Vous n'allez pas voir des problèmes avant qu'ils ne deviennent évidents. Alors, restez attentionnés parce que vous devez prier. Priez pour vous-même, priez pour les autres, restez concentrés. Dans l'esprit populaire, prier, c'est des gens qui ne s'occupent de rien, qui sont dans une espèce d'attitude mystique. Dans la parole, prier, c'est être réellement sur place. Prier, c'est voir ce qui se passe et prier pour ces choses-là, c'est être ancré dans la réalité. La prière, c'est vivre dans la réalité. Ensuite, il dit, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » On pourrait penser que quand il dit « Vaquez à la prière et soyez sobre », on pourrait penser, ça veut dire, je prie, mais je regarde autour de moi, j'ai vu un péché chez lui, j'ai vu un défaut chez l'autre, j'ai vu une inconséquence chez le troisième, je surveille. Dieu dit, soyez sages et sobres, mais en même temps, aimez ardemment les autres. On n'est pas là pour les épier, on n'est pas là pour les surveiller, on n'est pas là pour guetter leurs faiblesses. On est là pour prier pour eux, pour les aimer, pour s'occuper d'eux, pour les soutenir, pour les encourager. C'est pour ça qu'il faut vaquer et être sobre. C'est parce que les autres ont besoin de notre amour et nous avons besoin de leur. C'est C'est Jésus qui a dit, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, dans cette église de Perpignan, ça fait longtemps que je viens ici. Et j'ai entendu, je ne peux pas vous dire combien de témoignages, j'ai entendu de gens qui sont entrés dans cette salle et qui ont dit, ce qui m'a frappé dans ce, parmi ces gens-là, c'est qu'il y avait de l'amour les uns pour les autres. Je me souviens du témoignage de Tristan. La première fois qu'il est venu ici, il ne savait pas s'il y croyait ou pas. Ruth lui avait bien parlé, mais il ne voyait pas ce que ça pouvait donner. Il a dit, la première chose que j'ai ressenti, ce qui m'a frappé plus que toute autre chose, c'est l'amour qui était dans ces groupes. Il a dit, moi j'en étais venu à croire que l'homme est un loup pour l'homme et que si vous mettez 10 personnes dans une pièce pendant une heure, ça va finir en pugilat. Il a dit, j'ai vu des gens qui n'avaient rien à faire les uns avec les autres. Ils n'avaient pas les mêmes âges, ils n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'étaient pas dans la même classe sociale ou que voulez-vous, ils n'avaient pas la même éducation. Et j'ai vu entre ces gens, non seulement ils s'entendaient, ils ne se disputaient pas, mais en fait, ils s'aimaient vraiment. Il a dit, ça m'a bouleversé. Ça lui a montré la réalité du témoignage. Et ce n'est pas le seul témoignage que j'ai entendu par rapport à votre église. Donc c'est bien, on est sur la bonne voie. Mais l'apôtre Pierre nous rappelle, en vue du fait que la fin est proche et qu'il faut bien terminer son parcours, vous ne ferez pas d'erreur en vous aimant ardemment les uns les autres. On peut faire beaucoup d'erreurs, mais si on aime les autres, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est une chose qu'on ne regrettera jamais. Aimer ardemment les uns les autres, on pourrait ajouter malgré leurs défauts. Parce que penser qu'il doit vous aimer malgré les vôtres. Ah ça, c'est dur, je n'ai pas de défaut, voyons. Les autres, oui, mais moi pas, je n'ai pas de défaut. Ce qui est arrivé avec vous, c'est que vous êtes habitué à vos défauts. On s'habitue à ces défauts tellement bien qu'on commence à les regarder comme des qualités. C'est quand même grave, hein? Mais je vais vous dire un truc, les gens qui vous entourent ne regardent pas vos défauts comme des qualités, ils les voient toujours comme des défauts. Et donc, il faut se dire, j'ai des défauts, d'autres en ont, mais Dieu nous appelle à nous aimer, sans trop regarder sur ces choses-là. Il dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. L'entraide. Et puis, les versets 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Que dit-il ici? Il dit, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un don spirituel. Vous avez un don spirituel. Il dit, ce don spirituel, vous en êtes le gérant. Et vous avez la responsabilité de servir la communauté avec le don spirituel que Dieu vous a fait. Et pour faire court, il dit, il y a deux types de dons spirituels. Il y a les dons de parole et puis il y a le don de service. C'est-à-dire, le don de parole, c'est peut-être le don de présider un culte ou une étude biblique. Le don de prêcher la parole, le don d'enseigner les enfants, le don de faire des visites, le don de faire des disciples de nouveaux convertis, tout ce qui concerne l'enseignement, la communication de la parole. Le don de donner un coup de fil et encourager quelqu'un, non pas pour apporter des petits morceaux d'informations sur tel ou tel, mais de vraiment écouter la souffrance de quelqu'un, lui donner un bon verset de la Bible, entrer dans sa souffrance, l'encourager, lui remonter le moral. Tout ça, c'est un don de parole. Puis vous avez un don de service. Tout ce qu'on fait avec les mains, le nettoyage du local, le rangement de la cuisine, l'arrangement des chaises, faire un stand biblique, monter, descendre, toutes ces choses-là, aller dans la rue, distribuer, etc. La distribution de traités, c'est un don de parole et c'est aussi un don manuel. On donne et on parle. C'est les deux. Donc, il dit, peu importe, mais si vous le faites, faites-le, quel que soit votre don, mettez votre don au service des autres, servez Dieu au milieu de votre église. Si vous avez un don de parole, faites-le, avec autorité, non pas votre autorité personnelle, mais en disant, Dieu dit dans sa parole, laissez la parole de Dieu toucher les cœurs, comme un oracle de Dieu. Dieu a dit. Et puis si vous avez un don manuel, un don de service, eh bien, faites-le avec la force que vous avez. Ça peut vous soulager aussi. Vous dites, moi j'ai un don manuel, mais je suis très faible. Mais n'en faites pas trop alors. Voyez ce que vous pouvez faire et faites ça. Il y a des gens qui peuvent bouger 15 chaises à la fois. Et puis il y a une petite femme frêle qui dit, oh, je ne peux pas porter 15 chaises. Je ne peux même pas porter une. Je peux mettre les cantiques sur les chaises. Je peux en porter 3 à la fois. Eh bien, c'est parfait. Chacun mettant au service des autres le don qu'il a reçu. Mais dis attention, la fin de toute chose est proche. Donc, attitude sobre, soyez dans la réalité, soyez dans la prière, aimez-vous ardemment les uns les autres, recevez-vous les uns les autres, et le don que vous avez reçu, mettez-le au service des autres. C'est tout ce qu'il dit l'apôtre Pierre ici, pour que Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Mes amis, la fin, nous ne savons pas quand elle viendra pour chacun d'entre nous. Mais à la lumière de l'évaluation que Jésus-Christ va faire de notre vie, en vue de la fin, y a-t-il peut-être un domaine? Vous dites, en vue de la fin, il y a des choses à corriger dans ma vie. Il y a une prière de confession que je dois faire. Il y a des attitudes que je dois réviser. Il y a des priorités qui ne doivent pas être des priorités dans ma vie. Le Saint-Esprit vous convaincra s'il y a quelque chose à changer. C'est lui qui vous le montrera. Et c'est ce qui vous montre qu'il faut dire oui, Seigneur, je suis attentif, je suis sobre, je réfléchis et je vais faire ce que tu me dis. Je vais t'obéir, je vais mettre ma vie en règle. S'il y avait besoin, laissez-vous parler par le Seigneur.